Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 21 février 2019 et vous écoutez le débrief de la première journée de Cannes. Sirius, et pour ce premier débrief, je suis accompagné par une bonne partie de la team présente à Cannes. Et je commence évidemment par Paul Gara. Salut Paul Gara.
Salut Sirius.
Et il y a également Astien. Salut Astien.
Salut Sirius.
Salut Fendoel.
Salut Sirius.
Et puis il y a également notre Munichois Hammer.
Oui, salut Sirius.
Alors ce premier jour un peu particulier, le jour réservé aux pros. On a pu ce matin monter notre stand. Super expérience, hein. Toute première expérience pour Foxy Jeux. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop vécu jusque là, hein. Une ambiance un peu particulière. Je sais pas comment vous avez vécu ça vous.
Alors moi c'est la première fois que je viens au Festival de Cannes pendant la journée pro. Bah j'ai été un peu surpris par l'affluence.
Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, c'est ça ?
Ouais, enfin je comprends un petit peu mieux pourquoi il y a maintenant cette journée pro. Mmh. J'ai l'impression que oui, ça parle pas mal business effectivement, et je pense que c'est ça qui fait en grande partie l'intérêt du festival pour les professionnels finalement.
Pas mal business entre les boutiques surtout, je pense, et les éditeurs.
Oui, et puis j'ai vu des gens qui allaient de rendez-vous en rendez-vous aujourd'hui, des rendez-vous professionnels, hein. J'ai croisé justement les gens de Ludofact, là, la fabrique de jeux dont j'avais fait une chronique, et ils sont là pour démarcher les éditeurs français pour vendre leurs services par exemple.
Voilà, c'est sûr qu'il y a un peu moins de monde, les éditeurs sont pas bousculés par les démonstrations, etc. Il y en a un peu moins. Hein.
Non, c'est vrai que par contre, on circule très bien dans les allées. Ouais. Ce qui ne sera pas forcément le cas à partir de demain.
Et Astien ?
La même chose, dans le sens où il y a du monde, mais il y a quand même l'avantage, comme disait Hammer, que les allées sont assez vides quand même, dans l'ensemble, comparé à ce qu'on va vivre ce week-end, et du coup, les tables sont libres. Ouais. Et ça, c'est un plaisir de pouvoir se poser en batifolant dans les allées et se poser sur un jeu qui nous plaît, qui nous tente.
Ouais. Est-ce que vous avez vu déjà des tables qui étaient prises d'assaut, malgré qu'il y ait peu de monde, des tables qui n'étaient pas dispo? L'année dernière, il y avait quelques tables quand même qu'on avait pu noter comme ça.
Sans avoir des tables pas dispo, il y a des tables où les jeux, il y en a qu'un seul de présenté. Par exemple, je pense à Wingspan. Chez Matago, qui
est un stand meilleur.
Ouais, c'est le meilleur game. Du coup, il y en a qu'un. Donc pour l'avoir c'est plutôt compliqué quoi.
Ouais, donc du coup t'as pas pu essayer, tu voulais ça
mais... Ouais, j'ai campé trois fois devant et à chaque fois c'était blindé, donc ouais. Impossible.
Ouais, c'est compliqué. Matago, ils ont beaucoup de sorties aussi, donc du coup au final, malgré leur stand qui peut être quand même assez grand, assez peu de tables par jeu quoi, je pense. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils devaient peut-être mettre pas mal en avant l'île au trésor peut-être aussi, non?
Oui, là, on est sur 5 ou 6 tables de l'île au trésor facile.
Ouais, quand même,
quoi.
Ouais. Mmh. Alors que l'année dernière, il y en avait une.
Ouais.
Bon, c'était encore en proto, c'est l'année dernière.
Mais bon, évidemment, nomination à l'Asdor oblige. Mmh. Il y a certains stands où j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de monde. Je suis passé sur le stand de Ludonaut tout à l'heure.
Ouais.
Bon, qui n'est pas un stand de la taille de celui de Matago, mais j'ai trouvé que, oui, à peu près toutes les tables étaient prises déjà.
Ouais. Qui présente Space Odyssey, il y avait autre chose aussi, non?
Il y avait Space Gate Odyssey, il y avait Atlantice, toutes les sorties. Il y a toujours un Colt Express géant dans un coin, évidemment, ouais, quoi. Mmh. Et je cite Ludonaut de mémoire, mais c'est pas le seul endroit où j'ai trouvé qu'il y avait déjà un petit peu de monde, oui, quand même.
Ouais, Space Gate Odyssey, moi, ça me branche bien. J'aimerais bien aller essayer.
J'ai prévu d'aller voir ça demain, moi.
Qui est un jeu de Cédric.
Oui, Cédric Lefebvre, qu'on aura en interview. Je sais plus si c'est, je crois que c'est samedi matin. Ouais.
Et d'ailleurs, les interviews, on va citer rapidement, donc, les interviews qui ont été réalisées aujourd'hui. Donc, la première interview a été réalisée par Astien et Fendoel. C'était l'interview d'Antoine Boza. Vous avez inauguré Cannes.
C'est ça, première interview de la journée.
Ouais, ça s'est bien passé.
Alors Antoine est exceptionnel en interview, je trouve. Il développe ses réponses, c'est top.
Ouais. Cool.
Il nous met à l'aise, quoi.
Bien. Ouais, parce que c'était ta première, hein, Stien.
Ah bah ouais, pour moi, tout à fait.
C'est le baptême du feu pour pas mal de l'équipe. Ensuite, on a enchaîné avec le planning qui était prévu, lui, depuis un peu plus longtemps, parce que le créneau d'Antoine, du coup, c'est un créneau qu'on a rajouté assez dernièrement. Donc, on a reçu avec Linria et moi-même, en fait, on a reçu donc Mathieu Bonin, qui nous a reparlé de DICE. Ensuite, on a reçu William Lett, qui est un auteur qui s'est auto-édité, donc un parcours un peu atypique par rapport à ce qu'on peut entendre régulièrement. C'était plutôt sympa. Donc William Lett, auteur de Pixie. Ensuite, on a reçu Simon Villot de Blam. Super intéressante l'interview. Il nous a parlé de Blam et puis vraiment, comment dire, de façon très transparente. Hein, il nous a parlé un peu de l'échec de Time Arena, par exemple, qui a été assez difficile à vivre pour Blam. Mais aussi, on a beaucoup parlé de Celestia, qui lui, en revanche, est un gros succès qui permet à Blam de tourner. Ensuite, Hammer a pris mon relais pour l'interview de Vincent Dutray.
Oui, je t'ai fait faire une petite pause. C'était aussi lié au fait que la dernière interview qu'on avait réalisée de Vincent, c'était toi-même qui l'avais faite au salon de Essen. Mmh. Donc, pour éviter peut-être
de la redondance, et puis un manque d'inspiration.
Voilà. Donc, bah Vincent, là aussi, très très bon client qui parle toujours avec grand plaisir de son métier, de ses envies de se renouveler aussi. Une actualité assez chargée pour lui, puisqu'il y a deux jeux nommés à l'As d'Or qu'il a illustrés, plus quelques autres ici qui sont présentés qui sont présentés, oui, sur le festival.
Ah, j'étais à côté pendant l'interview et j'ai entendu un moment quand vous aviez un peu fini de citer tous les trucs sur lesquels il avait bossé, il a dit « Oh, excusez-moi de travailler
!» Oui, c'est vrai, et encore, on n'a pas été exhaustif du tout.
Ouais, je pense pas.
Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il est là au festival de Cannes, parce que c'est pas souvent qu'il vient en France, puisque je rappelle qu'il habite en Corée.
Ouais, c'est ça. Ensuite, on a reçu j'ai repris le relais donc avec Linria toujours. On a reçu Étienne Espreman de Geek Attitude Game. On a parlé en particulier de Q System, qui est leur jeu localisé d'enquête qui m'a beaucoup plu. Et puis on est revenu aussi sur le succès de Not Alone en particulier. Ensuite, on a reçu la très sympathique équipe du Défossé, qui est un podcast concurrent. Alors vous verrez, c'était vraiment une interview plutôt franchouillarde et rigolote. Alors on s'est plutôt bien marré avec eux. On voit que c'est des gens qui sont comme nous, dans l'habitude de faire des podcasts, quoi. Donc on s'est bien marré. C'était une interview très sympathique. Ils nous ont présenté leur podcast, le format. J'allais dire enfin, mais non, c'est pas tout à fait vrai. On a reçu ensuite Anna Martel pour Space Co, qui est donc le label enfant de Space Cowboy. Et avec elle, il y avait Vincent Goya qui lui nous a parlé des Space Cowboys. Une interview aussi très difficile à mener parce qu'il était très 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 dans les blagues, etc. Donc, bon, je suis pas sûr qu'on va réussir à faire une interview très propre. Soit on va devoir couper à l'arrache des trucs. Voilà, mais bon. Voilà. Et la dernière interview de la journée, c'était une interview qu'on a rajoutée au dernier moment puisque quelqu'un est passé, quelqu'un qui travaille pour une ludothèque associative. C'est un peu plus qu'une ludothèque associative en Guyane, donc il est passé nous voir, il m'a dit ah, qu'est-ce que vous faites et tout, donc du coup on a resserré encore un peu un créneau et on l'a fait rentrer. Et puis il y a eu une interview un petit peu particulière aussi cet après-midi, la première interview des Proximums. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement puisque il y a Gabi autour de la table et qui est là également avec Julien.
On a reçu comme invité Bruno Catala, lui a posé des questions quand il avait notre âge, donc 10 ans, enfin environ.
D'accord.
Et il a été très gentil. Et...
Et ça t'a plu de faire l'interview ?
Oui.
Ouais, c'était chouette.
Oui.
T'as pu faire comme maman. Super. Donc voilà, vous aurez une interview un peu dans un format vraiment inédit. Donc ce sont les enfants de Hammer et de Paul Gara qui se sont collés à l'interview. Et on remercie encore du coup Bruno Catala d'avoir accepté ce format. On lui a réservé la surprise, donc il a découvert en même temps qu'il a démarré l'interview que c'était Gabi et Julien qui allaient l'interviewer. C'est un planning pas mal chargé pour une demi-journée seulement. Bon, je propose qu'on passe au jeu que vous avez pu essayer aujourd'hui. On commence par Penduel par exemple.
Oui, moi j'ai fait pas mal le tour du salon avec Astien, essayé Slide Quest. Qui a un petit jeu chez Blue Orange, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Astien,
tu
me coupes si je dis des bêtises. Qui est un jeu un petit peu spécial avec un plateau amovible sur la partie centrale et avec lequel chacun des participants va appuyer sur des petites languettes en plastique rigide qui vont soulever le plateau sur les quatre axes, tout simplement. Et le but du jeu, c'est de déplacer un petit chevalier qui est en fait monté sur une espèce de bille un peu lourde.
En bille, comme dans Perle la tête, en fait.
Un peu comme dans Perle la tête.
Et qu'on va pouvoir faire glisser, qu'on doit amener en fait d'un point A à un point B en passant par des arceaux, des... enfin voilà, il y a plusieurs petites épreuves. On doit également pousser des figurines dans des trous, etc. C'est un petit jeu très très léger, on va dire, au niveau
jeu d'adresse coopératif. Quoi.
Voilà.
Et... c'est un mash-up entre Perle la tête et Looney Quest, non? Moi j'ai eu l'impression que c'était un peu ça, quoi.
Bah, faudra leur suggérer le comme titre,
le pitch,
comme sous-titre mash-up. On va faire ça.
Bah, attends, c'est pas trop mal quand même. Attends, Looney Quest c'était un as d'or et Perle la tête il était sélectionné quand même, ça.
Je dis pas que c'est des mauvaises références. Mais voilà, donc on s'est bien amusé. Ensuite, c'est un gameplay très léger, mais c'est vraiment à essayer actuellement. Et puis ça se teste très vite. Ouais. Et la partie a duré un quart d'heure. On a fait 5 niveaux et la partie a duré un quart d'heure.
J'ai un peu peur du côté gadget, en fait. Tu fais une partie, puis voilà.
Je pense que oui, mais je pense que pour des enfants, ça n'a pas, c'est pas du tout le...
Ouais, il se trouve que je crois qu'on y a quasiment, à part Cyrus, on y a tous joué autour de la table.
Ah. Ouais.
Donc on a en plus, même, tu vois, on a une grande conscience professionnelle. On a fait jouer des enfants aussi au jeu.
Et alors, est-ce que ça marche avec des enfants?
C'était rigolo, mais au final, moi, je m'en suis un peu lassée quand même aussi.
Déjà ?
Parce que, bon, alors après, il y a des niveaux qui sont vachement durs. On a voulu commencer au niveau, par exemple, 11 ou 10. Mais ça nous a quand même plus longtemps que les adultes, apparemment, puisqu'ils sont partis pendant pas mal de temps. Et nous, on a voulu rester.
Donc, t'as fait combien de niveaux ?
On a dû faire dans les 4 niveaux, je pense. Non, 5, je sais pas trop. Mais on s'arrête.
Ouais, 5, quoi.
5, à peu 6, près 5.
Je sais pas trop.
Ok. Bon, mais c'était quand même une bonne expérience, je pense.
Ouais.
Oui.
Est-ce que tu y rejouerais? Est-ce que tu le ramènerais chez toi pour y rejouer?
Moyennement, parce que, effectivement, je sais pas. J'y jouerais pendant une semaine, un mois, voire un an, mais après un an, je commencerais vraiment à...
Bah, non, ça va alors. Je pense
c'est
pas
mal pour un jeu.
Au rythme d'aujourd'hui, c'est pas mal déjà.
C'est
bien
énervant aussi.
Moi, si je peux me permettre, ça rappelle beaucoup aussi les jeux de plateforme. Hein. C'est un peu, on est un peu dans des tentatives jeux vidéo, enfin rapprochement des jeux de. Puis on a des vies exactement. Ça ressemble vraiment à des jeux vidéo. Je trouve que par rapport à une expérience récente comme Ed Beatbox, et vous quand même, on est un cran au-dessus en termes de. Enfin, ce que j'ai pu en voir après, c'est une partie de du jeu Ed Beatbox. Là, c'est quelques niveaux. On est quand même, c'est quand même un peu plus chouette.
Ouais.
Voilà. C'est un peu plus abouti, je trouve.
Le côté vraiment je joue avec le matériel aussi, est plus attirant, je pense. Ouais.
Oui, il y a eu très beau matériel dans la boîte.
Enfin, je joue de manière physique, quoi, je veux dire, avec le matériel, je bouge le matériel, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un jeu de Nicolas Bourgoin et Jean-François Rochas, donc chez Blue Orange. C'est quoi, c'est deux quatre joueurs?
Deux quatre joueurs,
tout à fait. Ok. Ensuite, Hammer peut-être, avec Paul Gara. Vous avez essayé Sonar Family?
Oui, alors Sonar Family, on a essayé ça en famille. Les adultes contre les enfants.
Ah oui.
Donc si vous connaissez Captain Sonar, voilà, c'est une version simplifiée en fait. Captain Sonar, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup, mais il a l'inconvénient qu'il ne se joue vraiment bien qu'à 8 joueurs, et exactement 8 joueurs.
Ah, 6 ça passe, mais bon.
Mais c'est vrai
8,
que bon.
C'est vraiment vachement mieux. Ouais.
Alors, dans cette version-là, c'est en fait 2 à 4 ouais. joueurs. Et les rôles sont en fait réduits, les actions sont aussi un peu plus limitées. Donc le jeu est vraiment très très accessible, beaucoup plus simple à expliquer que Captain Sonar, tout en reprenant le même principe. Hein, c'est deux équipes, chacun de d'un côté d'un paravent et un sous-marin poursuit l'autre.
Du coup, en gros, ça revient à quoi le sonar et le capitaine, quoi.
C'est ça.
Il y a le capitaine qui fait tous les rôles.
Il y a un capitaine qui en fait a un rôle très très réduit parce que les rôles de l'ingénieur et du mécano ne sont pas présents.
Ouais.
En fait, on se contente d'accumuler des points d'énergie à chaque fois qu'on fait un déplacement.
Ouais.
Et ces points d'énergie, on peut à son tour les dépenser pour faire l'action silence,
d'accord,
l'action sonar ou lancer un missile. sachant qu'on peut lancer un missile que si on est dans le même cadran de la carte que l'autre sous-marin. Donc on donne en tirant aussi une indication à l'équipe adverse.
D'accord.
Et donc il y a le radar de l'autre côté. Mmh. Donc vraiment très 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 simple, mmh. assez efficace. Par contre, on a joué en tour par tour et d'après ce que j'ai compris, le jeu en temps réel est ouais. une variante, mais je pense qu'on a quand même intérêt, comme pour le Captain Sonar normal, à jouer ouais. en temps réel plutôt que tour par tour.
Ah, c'est marrant, il l'annonce comme une variante parce que du coup, ça complexifie je pense effectivement en version famille, ça le replace du coup de l'autre côté d'une barrière qu'ils avaient peut-être pas envie de franchir. Quoi.
Ouais.
ouais. Intéressant. Ouais.
Mais pas inintéressant, peut-être comme une introduction au Captain Sonar qu'on ouais. connaît déjà.
Vous conseilleriez ou pas du coup au final?
Pour moi qui n'ai pas du tout joué au jeu d'origine.
Et... Oh, mon Dieu.
Bah oui.
On va faire réparer cette erreur au gagne-point que ces jeux.
Bah, tu vas être obligé de m'inviter.
Il faut être 8 pour inviter d'autres gens.
Et non, en fait moi c'est le genre de jeu sur lequel j'ai beaucoup de réserves naturellement. Enfin, ce genre de jeu pour lequel je suis persuadée que ça va pas trop me plaire et tout. Là sur la partie qu'on a faite, j'ai trouvé ça assez chouette.
Ouais.
Aussi mais, parce que on vous a écrasé, tu veux dire. Écrasé, c'est les enfants, c'est très bien.
Ah bah bravo.
C'est pour toutes les fois où vous nous battez, donc. Mais j'ai trouvé que c'était super amusant. Il y a un petit côté plaisir. Enfin, il y a un petit peu de plaisir, à, tu vois, à écrire. Enfin, ce côté qu'on retrouve dans l'île au trésor. Enfin, il y a vraiment un peu le même côté sympa et tout. Après, je suis toujours perplexe sur la durée de vie de ce genre de jeu. Enfin, est-ce qu'on s'en lasse pas? Voilà. Moi, je pense que c'est plus de genre de jeu où je risquerais de m'en lasser après avoir, après, voilà, le 8 joueurs. Là, c'est vrai qu'à 4, ça passe très facilement et puis tu peux jouer avec des enfants. Alors que je pense qu'une version 8 joueurs, c'est pas forcément évident. Enfin, de jouer facilement.
C'est plus simple par rôle, mais ce qui est complexe, c'est la coordination. Ok, bon. Très bien. Donc ça, c'est, on a dit, donc c'est 2 à 4 joueurs quand même?
Oui.
Donc, en gros, tu peux jouer un contre un. Bon, ok. Et donc, c'est un jeu toujours de Roberto Fraga et Johan Lemonnier, qui était le binôme du jeu d'origine, chez Matago. Ensuite, on va peut-être passer à Astien. Tu peux nous parler de Dany?
Oui, moi j'ai testé Dany, du coup, aujourd'hui.
Alors, Dany, ce n'est pas notre chroniqueuse. Hein. C'est bien le nom d'un jeu.
C'est un jeu, tout à fait. J'ai pu y jouer en compagnie de Hammer et de Fendowell.
Tout à fait.
Du coup, Dany, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on va jouer Dany et ses personnalités multiples. Donc chaque joueur va jouer un rôle caché. Donc l'un de nous sera Dany et les autres des personnalités multiples. Et le but va être de faire deviner un mot qui est sur une liste de mots au centre de la table via des images très oniriques. Alors c'est pas du tout le style d'image.
Je sais pas si on peut dire onirique du coup sur le
style.
Ouais,
pas forcément. C'est pas des images à la Dixit et et autres jeux, comme ça, Mysterium et tout ça, c'est des.
Moi,
j'ai des images assez simples. Je sais pas, c'est juste des traits en fait.
Simple.
Je sais pas comment. C'est noir et blanc,
des traits. Mais en fait, moi, j'aurais vraiment apparenté ça. Tu vois, genre par exemple à du Dali.
Ouais.
Tu prends par exemple comme un éléphant qui a des longues pattes ou ce genre de truc, mais effectivement tracé juste avec du noir et du blanc, c'est-à-dire un peu à l'encre de Chine, quoi. Ça, tu prendrais Dali qui ferait un dessin à l'encre de Chine, un dessin surréaliste à l'encre de Chine. Ça pourrait être ça,
paraît être ça. Ouais.
Très psychédélique.
Avec
comme
des maisons, avec des yeux, avec des femmes, avec peut-être une tête d'ours ou tu vois des trucs un peu un petit peu étranges comme ça.
Voilà, et du coup il va falloir essayer de deviner ce fameux mot qui est dans cette liste au centre de la table, et on va procéder souvent par élimination, on a trouvé, pour trouver le mot qu'on essaie de nous faire deviner. Ouais. Mais dans tous les joueurs, il y a bien sûr Dany qui lui va essayer de...
Une sorte de traître, quoi.
Voilà, de nous faire comprendre que c'est pas celui-ci de mot qu'il faut qu'on devine, qu'il faut que ce soit un autre. Et du coup, si les personnalités de Dany arrivent à faire 6 découvertes de mots, donc 6 points, ils remportent la partie. Et si Dany arrive à faire en sorte qu'on se trompe jusqu'à 3 fois,
ouais.
Et ben là, Dany peut remporter la partie si on ne découvre pas qui il est.
Ok. Alors ça marche? Ça marche pas?
Eh ben, ça marche plutôt bien. C'est vrai que moi, pendant l'explication de règles, je me suis dit ouais, moyen, ça va pas me tenter. Et en fait, dès qu'on est lancé, déjà dès qu'on voit les images, c'est très difficile d'aller essayer de faire correspondre un mot, parce que les mots, ça va pas être jardin, fleur. On est sur des choses comme
on va retrouver concepts,
ouais, mais des trucs compliqués aussi à mettre en place. Genre on a meurtre, on va avoir
souvenir,
voilà,
timidité.
okay. À l'encontre de. Enfin,
oui. C'est pas des objets en fait.
C'est plus des concepts. Mmh. Et donc le joueur actif a sept cartes en main avec cette image. Il peut décider d'en utiliser une ou plusieurs. Il peut essayer de les combiner, de masquer certaines parties des cartes pour essayer de faire deviner le concept. D'accord. Alors il y a en même temps. C'est une partie du gameplay parce que en fait la partie peut aussi se terminer si on arrive à la fin de la pile d'images. Alors celui qui est Dany, par exemple pourrait vouloir essayer d'utiliser beaucoup de cartes, mais il doit quand même arriver à essayer de justifier l'usage de ces
cartes. Mais du coup les cartes que tu utilises, tu les pioches au hasard ou tu les vois quand
oui,
même
tu as une main de cette carte au hasard au départ et donc ton mot t'est imposé. Mmh. Et des fois c'est très 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 difficile, mais je trouve que ce qui fait l'intérêt du jeu, on pourrait dire c'est un énième jeu à rôle caché, mais c'est vraiment ce que tu essayes de faire deviner qui crée des discussions autour de la table qui sont quand même différentes de ce que j'avais vu jusqu'à présent.
D'accord. Ah,
vraiment.
Et du coup, ça vous a globalement ça vous a emballé.
Ouais. Du coup, au final, dès que la partie était lancée, moi j'ai trouvé ça extra.
Mm. Ouais. Moi, j'ai été agréablement surpris aussi.
Honnêtement, c'est un jeu que personnellement j'achèterais pas, mais je le trouve vraiment original et je pense que j'aurais du plaisir à y jouer.
Mm. Pourquoi tu l'achèterais pas alors?
Parce que faut avoir les joueurs. Enfin, je sais pas. Je le trouve un peu. Tu vois, c'est un petit peu comme comme Feelings ou ce genre de jeux qui ont un côté un peu. Tu vois, qui vont parler à ton côté. Je sais pas. J'ai l'impression de faire une séance de psy ou ce genre de choses. Tu vois quand tu vois ça.
Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai.
Il y a un côté un peu comme ça.
J'ai l'impression quand même moins qu'à Feelings quand même, non? Parce que Feelings, il met vraiment ça en avant, quoi.
Mais c'est
tu le ressens aussi, je trouve. Hein, comme Defendwell, il y a vraiment ce côté-là où. Le jeu se veut des personnalités de toute façon de Dany.
Ils ont fait ça avec des tâches
de torturer la tête.
Mais ça aurait pu
torturer l'esprit pour savoir comment tu réfléchis, comment tu penses avec ces fameuses images très psychédéliques.
Ouais, et que tu vas cacher partiellement. Tu peux aussi utiliser le dos des cartes. Tu peux les potentiellement en faire un château de cartes si tu veux, si tu arrives à faire deviner les choses.
À faire un château aussi.
Non, mais le truc est malin, c'est que plus tu utilises des cartes, en fait, plus tu vas ronger tes souvenirs et tu vas te rapprocher de la fin de la partie. Donc, on va essayer d'en utiliser le minimum, mais enfin voilà, il y a un jeu là-dessus qui est aussi super malin. Niveau gameplay, il est très bien. Niveau visuel, il est très particulier et donc. Unique de ce côté-là, voilà.
Okay. En tout cas, vous avez renforcé ma curiosité sur ce jeu, parce que j'avais shortlisté. Okay. Bien. On passe au jeu suivant, Fendwell, Corinth.
Eh ben, c'est un roll and write, parce que je voulais faire hommage.
On peut passer au suivant. je pense qu'on peut parler de Gizmo.
Non, alors, Corinth, en trois mots, j'ai pas vraiment accroché au truc. Alors, en toute honnêteté, et je le dis à chaque fois, je ne suis pas fan des Roll and Write. Tu n'es pas le seul, évidemment, Cyrus. Et voilà, c'est un Roll and Write assez, enfin voilà, où tu vas rouler des dés en fonction. Tout simplement, on va rouler des dés, faire des petits tas de dés en fait par valeur.
Tous les deux, tous les trois.
Bon, il y a plein de. Ensuite, je pense que tu peux trouver plein de similitudes. Tous les un, tous les deux, tous les trois, tous les quatre. Et chaque joueur, en commençant par le joueur qui vient de lancer les dés, va prendre l'une de ses piles. Donc soit tous les un, soit tous les deux, soit tous les trois, soit tous les quatre. Et en fonction, il va cocher des cases sur sa carte. Et tout simplement, on va ensuite passer au joueur suivant qui va faire la même chose, etc., etc. On joue chacun un certain nombre de tours. Voilà.
Okay. Il y en a d'autres qui ont joué ?
Oui, non ? J'étais avec Fendwell sur cette partie-là aussi.
Toi, t'aimes bien les Roll and Write ?
Alors, parce que Sirius est là, je vais dire non.
Je suis pas
forcément public de ce genre de jeu, mais j'avais apprécié jouer à Welcome. Après. Moi, c'est pas du tout des jeux que j'ai chez moi non plus, par exemple. C'est pas des jeux qui m'intéressent à l'achat, mais c'est des jeux sur lesquels je prends du plaisir. Et là, sur Corinth, je suis très mitigé comme Fendwell. Ça m'a pas emballé du tout, quoi. J'ai trouvé ça un peu lourd, assez long, voilà.
Pourtant, parce que du coup, chacun prend un tas de dés, donc du coup, quand même une prise sur les autres joueurs, quoi. S'ils ont un intérêt à prendre, par exemple,
Il y a un paquet de dés que tu lances par tour, et en fait, tu peux booster le pool de dés, quand ça arrive à ton tour, donc en fait.
T'as presque trop de maîtrise sur le jeu, c'est ça?
En fait, t'es sûr de pouvoir cocher des trucs. Après, c'est vrai que si t'es des derniers joueurs, ce qu'on a remarqué, c'est que, bah tu te retrouves un peu avec les restes du tapis quoi.
Bah ça, donc, ouais, logique, ouais.
Voilà, comme du Roll and Write assez classique. Mais sinon, dès que ça revient à ton tour, tu peux rebalancer, tu peux remettre la balance de ton côté et c'est reparti, quoi.
En fait, à mon avis, les scores sont quand même très aléatoires. Il y a une espèce de concours, d'ailleurs, sur le salon où le but du jeu, c'est de faire le score maximum. Mais, bah, si, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si tu fais beaucoup de, enfin, des dés de très haute valeur, éventuellement, bah, tu vas faire tu peux faire des scores énormes, et à mon avis, d'une partie à l'autre, la variabilité des scores va être très, très grande, justement. Donc, pour moi, le côté aléatoire est quand même assez, assez fort.
Ok. Passe encore les deux derniers jeux. Donc, il y avait Draftosaurus.
Oui, donc, on a joué à Draftosaurus, là, pareil, avec Hammer, Astien, et Gabriel et moi. Et puis une autre personne. Et donc c'est un jeu dont on a entendu parler récemment pour ceux qui ont bien écouté la radio des jeux l'épisode récent. Donc c'est un jeu de la team Kaedama qui a été développé pour Ankama. C'est un jeu de draft, donc comme son nom l'indique, où on drafte des dinosaures. Donc on a une petite pochette avec des dinosaures dedans, mais vraiment petits, hein,
des petits meeples,
colorés, super jolis. Donc tu peux t'amuser à reconnaître les triceratops, les diplodocus, le T-Rex évidemment. Et donc en fait tu as une espèce de petit plateau personnel avec des emplacements qui vont te permettre de scorer, et donc tu vas placer les petits meeples de dinosaures que tu pioches, t'en pioches 6 et tu dois les placer. Donc t'en pioches 6, t'en prends un, tu le places dans un de tes enclos à dinosaures, et ensuite tu passes les 5 restants à ton voisin et ainsi de suite. Donc tu vas scorer si t'arrives à faire un enclos avec tous les mêmes dinosaures, un scorer si t'arrives au contraire à faire un enclos avec que des différents, si t'arrives à faire un couple, etc. Donc voilà, c'est moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. C'est un petit jeu, hein, qu'on s'entende bien. C'est vraiment un petit jeu avec le matériel qui est assez mignon. Enfin voilà, je trouve que le plateau personnel est un peu petit. Ou alors c'est parce que je vieillis, je vois plus très bien, je ne sais pas. C'est juste dommage, j'ai trouvé ça. Et après c'est un jeu auquel tu vas jouer vraiment entre deux gros jeux où tu vois avec des enfants ça passe très bien, mais même entre adultes, en après-midi où tu veux faire plein de petits jeux différents, bah ça s'y prête très très bien, c'est très sympa. Bon, et puis les dinosaures, ça plaît. Enfin voilà, il y en a. Il y a toujours un petit kiff de se dire, oh mais c'est un mini triceratops bleu, génial et tout. Enfin voilà.
Et c'est quoi? Ce serait plutôt genre une introduction au draft ou c'est quand même avancé?
Pas avancé du tout parce que les choix sont quand même. C'est peut-être beaucoup plus simple que de drafter des.
Ouais, par rapport à Sushigo, par exemple.
Moi j'ai pas joué à Sushigo, donc j'ai pas d'avis sur la question.
Parce que Sushigo, pour moi, c'est un peu la quintessence du draft et tu vois l'introduction du draft.
Bah écoute, moi j'aurais peut-être tendance à dire que c'est encore plus simple que Sushigo.
Ah ouais.
Parce que dans Sushigo, quand ta main de carte arrive au début de la manche, tu sais pas encore sur quoi tu vas scorer ou pouvoir scorer.
Ouais.
Alors que là sur ton plateau personnel, tout le monde a les mêmes possibilités de scoring. Évidemment, tu pourras pas marquer des points sur tout.
Ouais.
En même temps, il y a certaines tu joues pas complètement dans ton coin parce que il y a certains scoring qui ne se font que si c'est toi qui a le plus de ce type de dinosaure là. Donc tu vas quand même surveiller un petit peu les autres. Donc éventuellement tu peux faire au bout de quelques parties un peu du contre-draft de dinosaures si tu veux. Donc honnêtement, pour une introduction au draft, je trouve qu'il est très 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 bien.
D'accord.
Et il est agrémenté par le matériel.
OK, d'accord, très bien. Bon. Donc ça, du coup, c'est la team Kaedama, et donc c'est chez Ankama, c'est 2-4 joueurs.
C'est 2-5 jusqu'à 5 joueurs, oui, absolument.
Très bien. Ok. Alors bon, finalement, on va s'arrêter là parce que on va bientôt nous mettre à la porte. Le festival ferme dans 10 minutes. Juste peut-être pour conclure, du coup, est-ce que là-dedans, il y a un coup de cœur? J'ai pas le sentiment qu'il y ait un gros coup de cœur aujourd'hui. Rien qui fait l'unanimité en tout cas.
Non, pas pour aujourd'hui pour l'instant.
Non, mais des belles découvertes.
Oui,
franchement,
ouais,
Slide Quest et Dani, très chouette. Oui. En tout cas pour ma part.
Très bien.
Personne va enchaîner.
Il y a pas de souci. Eh bien, très bien. Bah écoutez, dans ce cas-là, on va clore l'épisode. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, si ce petit débrief vous a plu, n'hésitez pas à le partager abondamment. Et puis rendez-vous sur notre page Tipeee. Bah, on se retrouve demain pour le débrief du jour 1, le vrai jour 1. Et puis d'ici là. Jouez bien.